Première partie, chapitre 9. C'est ainsi que Wilhelm passait les nuits dans les intimes jouissances de l'amour et les jours dans l'attente de nouvelles délices. Dès le temps où le désir et l'espérance l'avaient entraîné vers Marianne, il s'était animé comme d'une vie nouvelle. Il avait senti qu'il devenait un autre homme. Maintenant, il était uni avec elle. La satisfaction de ses vœux devenait une charmante habitude. Son cœur s'efforçait d'ennoblir l'objet de sa passion, son esprit d'élever avec lui sa bien-aimée. Pendant la plus courte absence, il était possédé de sa pensée. Si elle lui avait été d'abord nécessaire, elle lui était maintenant indispensable, car il se voyait uni avec elle par tous les liens de l'humanité. Il sentait dans son âme pure qu'elle était la moitié, plus que la moitié de lui-même. Il était reconnaissant et dévoué sans réserve. De son côté, Marianne parvint à se faire illusion quelque temps. Elle partageait l'ivresse de son amant. Ah, si seulement la main glacée du remords n'avait pas quelquefois porté le trouble dans son cœur. Elle n'y pouvait échapper, même dans les bras de Wilhelm et sous l'aile de son amour. Et, lorsqu'elle se retrouvait seule et qu'elle retombait, des nuages où la passion de Wilhelm l'avait emportée, dans le sentiment de sa situation, alors elle était à plaindre. La légèreté avait été son refuge lorsqu'elle vivait dans un désordre vulgaire. Qu'elle s'abusait sur sa position, ou plutôt qu'elle ne la connaissait pas. Les aventures auxquelles elle était exposée lui paraissaient des événements isolés. Le plaisir et la peine se relayaient, l'humiliation était compensée par la vanité et souvent le besoin par une opulence passagère. Elle pouvait se représenter la nécessité et l'habitude comme une loi et une excuse. Et cependant, secouée d'heure en heure, de jour en jour, toutes les sensations désagréables. Maintenant, la pauvre fille s'était sentie transportée quelques instants dans un monde meilleur, comme d'un lieu élevé, du sein de la lumière et de la joie, elle avait jeté un regard sur le désert, le dérèglement de sa vie. Elle avait senti quelle misérable créature est une femme, qui, en inspirant le désir, n'inspire pas en même temps l'amour et le respect, et au-dedans comme au-dehors, elle ne se trouvait en rien plus digne d'estime. Elle n'avait rien qui pût la soutenir. Lorsqu'elle s'observait et se cherchait elle-même, son âme était vide, son cœur sans appui. Plus sa situation était triste, plus elle s'attachait avec ardeur à son amant. Sa passion croissait chaque jour, comme le danger de le perdre s'approchait chaque jour davantage. De son côté, l'heureux Wilhelm planait dans les plus hautes régions. Un monde nouveau s'était aussi ouvert devant lui, mais riche en magnifiques perspectives. À peine les transports de sa première ivresse se furent-ils apaisés, qu'il vit clairement devant ses yeux ce qu'il avait ébloui et troublé jusqu'alors. « Elle est à toi, elle s'est donnée à toi, cette femme chérie, recherchée, adorée, s'est livrée à ta foi, mais elle ne s'est pas abandonnée à un ingrat. » Où qu'il pût, il se parlait à lui-même. Son cœur s'épanchait sans cesse, et il se débitait dans un flot de paroles pompeuses les plus sublimes sentiments. Il croyait comprendre la manifeste volonté de la destinée, qui lui tendait la main par l'entremise de Marianne pour l'arracher à la vie bourgeoise, monotone et languissante dont il avait depuis si longtemps désiré s'affranchir. Abandonner sa famille et la maison paternelle lui semblait chose facile. Il était jeune, étranger au monde, et son ardeur de courir au loin, après le bonheur et la jouissance, était augmentée par l'amour. Sa vocation pour le théâtre lui paraissait désormais évidente. Le noble but qu'il voyait dressé devant ses yeux lui paraissait plus proche depuis qu'il y tendait en donnant la main à Marianne. Et il voyait en lui, avec une orgueilleuse modestie, l'excellent comédien, le créateur d'un théâtre national, après lequel il avait vu tant de gens soupirer. Tout ce qui avait sommeillé jusqu'alors dans les derniers replis de son âme s'éveillait aujourd'hui. Avec les couleurs de l'amour et mille pensées diverses, il peignait, sur un fond de nuages, un tableau dont les figures se confondaient, il est vrai, les unes avec les autres, mais dont l'ensemble produisait un effet d'autant plus ravissant. Chapitre 10. Wilhelm était assis dans sa chambre. Il faisait la revue de ses papiers et se préparait au départ. Ce qui avait rapport à sa destination précédente était mis à l'écart. Il voulait, pendant ses pèlerinages, s'affranchir de tout souvenir désagréable. Les ouvrages de goût, les poètes et les critiques furent, comme de vieux amis, placés parmi les élus. Et, comme il avait jusqu'alors très peu étudié les principes de l'art, il sentit renaître son désir de s'instruire, en revoyant ses livres et en observant que la plupart des ouvrages de théorie n'étaient pas encore coupés. Pleinement convaincu que ces ouvrages lui étaient nécessaires, il s'en était procuré un grand nombre, et, avec la meilleure volonté du monde, il n'avait pu en lire aucun jusqu'à la moitié. En revanche, il s'était attaché avec d'autant plus d'ardeur au modèle, et il s'était essayé lui-même dans tous les genres qui lui étaient connus. Werner entra, et observant son ami entouré des cahiers qu'il avait vus souvent, il s'écria « Te voilà encore avec ces écrits? Je gage que tu ne songes pas à terminer l'un ou l'autre. Tu les parcours encore et encore, et tu commences peut-être quelque chose de nouveau. » Achever n'est pas l'affaire de l'écolier, il suffit qu'il s'exerce. Mais du moins il va jusqu'au bout aussi bien qu'il peut. Et pourtant il est permis de se demander si l'on ne peut concevoir d'aussi bonnes espérances d'un jeune homme qui s'aperçoit bientôt qu'il a fait un essai malheureux, ne poursuit pas son travail et ne veut prodiguer ni son temps ni sa peine pour des ouvrages qui n'auront jamais de valeur. Je n'ignore pas que tu n'as jamais su terminer quelque chose. Tu es toujours fatigué avant d'arriver à moitié chemin. Quand tu dirigeais notre théâtre de marionnettes, que de fois n'as-tu pas fait tailler de nouveaux habits pour nos petits acteurs, fabriquer de nouvelles décorations? C'était tantôt une tragédie, tantôt une autre, qu'il s'agissait de représenter. Et à grand-peine, enfin, tu donnais le cinquième acte, où les choses se passaient dans un beau désordre et où les gens se poignardaient. Puisque tu veux parler de ce temps-là, à qui la faute si nous faisions enlever les habits adaptés et cousus au corps de nos poupées, et si nous faisions la dépense d'une infinie et inutile garde-robe? N'était-ce pas toi qui avais toujours à vendre quelques nouvelles pièces de ruban et qui savais enflammer et exploiter mon caprice? Fort bien, répondit Werner en riant. Je me souviens avec plaisir que je tirais profit de vos campagnes dramatiques comme les fournisseurs de la guerre. Quand vous prîtes les armes pour la délivrance de Jérusalem, je fis aussi de beaux bénéfices, comme autrefois les Vénitiens. Je ne trouve rien de plus sage au monde que de mettre à contribution les folies d'autrui. Je ne sais s'il n'y aurait pas un plus noble plaisir à guérir les hommes de leur folie. Tel que je les connais, ce serait, je crois, une vaine entreprise. C'est déjà pour un seul homme une assez grande affaire de devenir sage et riche en même temps, et le plus souvent, il le devient aux dépens des autres. Je trouve justement sous ma main, reprit Wilhelm en tirant un cahier d'entre les autres, le jeune homme en face des deux chemins. « Voilà pourtant un travail terminé, quel qu'en soit le mérite. »« Mais cela au rebut, jette-le au feu. L'invention ne mérite pas le moindre éloge. Cette composition m'a déplu d'abord, et elle t'a valu le mécontentement de ton père. Les vers peuvent être fort jolis, mais la conception est radicalement fausse. Je me souviens encore de ton industrie personnifiée, ta vieille ratatinée, ta misérable Sibylle. Tu auras sans doute pêché cette figure dans quelque pauvre boutique. Tu n'avais alors aucune idée du commerce. Je ne sais personne dont l'esprit soit et doive être plus étendu que celui d'un véritable négociant. Quel coup d'œil ne nous donne pas l'ordre avec lequel nous dirigeons nos affaires ? Il nous permet de saisir constamment l'ensemble, sans que nous soyons forcés de nous égarer dans les détails. Quels avantages ne procure pas aux négociants la tenue de livres en partie double ? C'est une des plus belles inventions de l'esprit humain, et tout bon père de famille devrait l'introduire dans son ménage. « Excuse-moi, » dit Wilhelm en souriant, « tu commences par la forme, comme si c'était l'affaire. Mais d'ordinaire, avec vos additions et vos bilans, vous oubliez le véritable total de la vie. Et toi, par malheur, tu ne vois pas, mon ami, que la forme et le fond sont ici la même chose, et que l'un ne pourrait subsister sans l'autre. L'ordre et la clarté augmentent le goût d'épargner et d'acquérir. Un homme qui gouverne mal ses affaires se trouve fort bien dans l'obscurité. Il n'aime pas à faire le compte de ses dettes. Rien de plus agréable, au contraire, pour celui qui est bon économe, que de faire chaque jour la somme de sa fortune croissante. Une perte même, si elle le surprend et l'afflige, ne l'effraie point, parce qu'il sait d'abord quels gains effectifs il peut mettre sur l'autre plateau de la balance. Je suis persuadé, mon cher ami, que si tu pouvais une fois prendre un véritable goût à nos affaires, tu te convaincrais que plusieurs facultés de l'esprit y peuvent trouver aussi leur libre développement. Peut-être le voyage que je médite fera-t-il naître chez moi d'autres idées. Oh, certainement, crois-moi, il ne te manque autre chose que le spectacle d'une grande activité pour que tu deviennes tout de bon l'un des nôtres. Et à ton retour, tu t'empresseras de t'associer à ceux qui, par toutes sortes d'expéditions et de spéculations, savent retenir pour eux une partie de l'argent et des jouissances qui circulent dans le monde, suivant une loi nécessaire. Jette un regard sur les productions naturelles et artificielles de toutes les parties du globe. Considère comme elles sont devenues mutuellement des choses indispensables. Quelle occupation agréable, intelligente, que celle d'observer tout ce qui est actuellement le plus recherché et qui manque parfois est difficile à trouver. De procurer facilement et promptement à chacun ce qu'il désire, de remplir ses magasins avec prévoyance et d'utiliser chaque moment de cette grande circulation. Voilà, ce me semble, pour tout homme intelligent, le sujet de grande jouissance. Wilhelm ne semblait pas éloigné de partager ses sentiments, et Werner poursuivit. Commence seulement par visiter quelques grandes villes de commerce, quelques ports de mer, et tu seras certainement entraîné. Quand tu verras tant d'hommes occupés, quand tu sauras d'où viennent tous ces produits, où ils vont, tu les verras sans doute avec plaisir passer aussi par tes mains. Tu considéreras la moindre marchandise dans sa liaison avec le commerce tout entier, et rien ne te semblera méprisable, parce que tout augmente la circulation, d'où la vie tire sa nourriture. Werner, qui cultivait son bon esprit dans la société de Wilhelm, s'était accoutumé à considérer aussi d'un point de vue élevé sa profession, ses affaires, et croyait toujours le faire avec plus de raison que son intelligent et précieux ami, qui lui semblait attacher une si grande importance et toutes les forces de son âme aux choses les plus chimériques du monde. Il se disait parfois qu'il finirait par triompher de ce vain enthousiasme et par ramener un si honnête homme au bon chemin. Dans cette espérance, il continua. Les grands de ce monde se sont emparés de la terre. Ils vivent dans le faste et l'opulence. Le plus petit coin de notre continent est déjà possédé, et chaque possession confirmée. Les emplois et les autres offices civils sont peu lucratifs. Où trouver encore un gain plus légitime, de plus équitable conquête que dans le commerce? puisque les princes de la terre ont en leur puissance les rivières, les chemins, les ports, et prélèvent sur toute chose qui arrive ou qui passe un fort tribut, ne devons-nous pas saisir avec joie l'occasion, et par notre activité, lever aussi un péage sur chaque article que le besoin ou la vanité a rendu indispensable aux hommes? Je puis t'assurer que si tu voulais faire usage de ton imagination poétique, tu pourrais hardiment opposer ma déesse à la tienne, comme une invincible et triomphante rivale. Elle porte, il est vrai, plus volontiers le rameau d'olivier que le glaive. Elle ne connaît ni le poignard ni les chaînes, mais elle distribue aussi à ses favoris des couronnes, qui, soit dit sans mépriser les autres, brillent d'or pur, puisés à la source, et de perles que ses infatigables serviteurs ont tirées du fond des mers. Wilhelm fut un peu piqué de cette sortie, mais il cacha son chagrin, car il se souvenait que Werner avait aussi coutume d'écouter ses apostrophes avec tranquillité. D'ailleurs, il était assez équitable pour voir avec plaisir que chacun eût la plus haute idée de sa profession, pourvu qu'on s'abstînt d'attaquer celle à laquelle il s'était consacré avec passion. « Et toi ? » s'écria Werner, « qui prends un si vif intérêt aux affaires humaines, quel spectacle sera-ce pour toi quand tu verras les hommes recueillir sous tes yeux le bonheur qui accompagne les courageuses entreprises ? Quoi de plus ravissant que la vue d'un vaisseau qui aborde, après une heureuse navigation, qui revient à l'improviste chargé d'un riche butin. Non seulement le parent, l'ami, l'intéressé, mais tout spectateur étranger est transporté, quand il voit avec quelle joie le navigateur, longtemps prisonnier, saute sur le rivage avant même que son vaisseau l'ait touché, se sent libre encore et peut désormais confier à la terre fidèle ce qu'il a dérobé à l'onde perfide. Mon ami, ce n'est pas dans les chiffres seulement que paraît notre gain. Le bonheur est la divinité des vivants, et pour sentir véritablement sa faveur, il faut vivre et voir des hommes qui travaillent avec toute l'ardeur de la vie et jouissent avec toute l'énergie de leurs facultés. Chapitre 11. Il est temps de faire connaissance avec les pères de nos jeunes amis. Deux hommes, dont les idées étaient fort différentes, mais dont les sentiments s'accordaient à considérer le commerce comme la plus noble des professions, et tous deux fort attentifs à chaque bénéfice que telle ou telle spéculation pouvait leur procurer. Aussitôt après la mort de son père, le vieux Meister avait fait argent d'une précieuse collection de tableaux, de dessins, de gravures et d'antiquités. Il avait rebâti et meublé sa maison dans le dernier goût, et il avait fait valoir, par tous les moyens possibles, le reste de sa fortune. Il en avait placé une part considérable dans le commerce du vieux Werner, qui était renommé comme un négociant plein d'activité, et dont les spéculations étaient d'ordinaire favorisées par la fortune. Mais le vieux Meister ne désirait rien tant que de procurer à son fils les talents qui lui manquaient à lui-même, et de laisser à ses enfants des biens à la possession desquels il attachait le plus grand prix. À la vérité, il avait un goût particulier pour le luxe, pour ce qui frappe les yeux, mais il y voulait en même temps une valeur intrinsèque et la durée. Dans sa maison, tout devait être solide et massif, les provisions abondantes, l'argenterie de poids, la vaisselle riche. En revanche, les convives étaient rares, car chaque dîner devenait un festin, que d'une part la dépense et de l'autre l'embarras ne permettaient pas de répéter souvent. Son ménage allait d'un pas uniforme et tranquille, et tout le mouvement et le changement qu'il pouvait subir portaient justement sur des choses qui ne donnaient de jouissance à personne. Le vieux Werner menait une tout autre vie, dans une maison obscure et sombre. Avait-il achevé sa besogne dans son étroit comptoir, à son vieux pupitre, il lui fallait un bon souper, et s'il était possible, du vin meilleur encore. Il n'aimait pas non plus à se régaler seul. Avec sa famille, il voulait toujours voir à sa table ses amis et tous les étrangers en affaires avec sa maison. Ses chaises étaient vieilles, mais chaque jour il invitait quelqu'un à s'y asseoir. La bonne chère fixait l'attention des convives, et nul ne remarquait que le repas était servi dans de la vaisselle commune. Sa cave ne renfermait pas beaucoup de vin, mais celui qu'on avait fini de boire était d'ordinaire remplacé par du meilleur. Ainsi vivaient les deux pères, qui se voyaient souvent, conféraient sur leurs affaires communes, et, ce jour même, avaient résolu de faire entreprendre à Wilhelm un voyage de commerce. « Il apprendra à connaître le monde, » dit le vieux Meister, « et en même temps il fera nos affaires au dehors. On ne peut rendre un plus grand service à un jeune homme que de le consacrer de bonne heure à ce qui doit l'occuper toute sa vie. Votre fils est revenu si heureusement de sa tournée, il a si bien conduit ses affaires, que je suis très curieux de voir comment le mien se comportera. Je crains qu'il ne paye son apprentissage plus cher que le vôtre. » Le vieux Meister, qui avait une grande idée de son fils et de sa capacité, parlait ainsi dans l'espérance que son ami le contredirait et relèverait les remarquables talents du jeune homme. Mais en cela il s'était trompé. Werner, qui, dans les choses pratiques, ne se fiait qu'à ce qu'il avait éprouvé, répondit froidement « Il faut essayer. Nous pouvons l'envoyer par le même chemin. Nous lui donnerons des instructions pour se diriger. Nous avons divers recouvrements à faire, d'anciennes relations à renouveler, de nouvelles à former. Il peut aussi nous seconder dans l'entreprise dont je vous parlais dernièrement, car sans prendre sur les lieux des renseignements exacts, il y a peu de choses à faire. Il faut qu'il se prépare, dit le vieux Meister, et qu'il parte aussitôt que possible. Où lui trouverons-nous un cheval convenable pour ce voyage? Nous ne cherchons pas bien loin. Un marchand de haches qui nous doit quelque argent, brave homme du reste, m'en a offert un en paiement. Mon fils a vu ce cheval et dit qu'il peut être d'un très bon service. Wilhelm ira le chercher lui-même. En prenant la diligence, il sera de retour après-demain de bonne heure. Dans l'intervalle, on prépare son porte-manteau et les lettres, et il peut se mettre en voyage au commencement de la semaine prochaine. Wilhelm fut appelé, et on l'informa de la résolution qu'on avait prise. Quelle ne fut pas sa joie quand il vit dans ses mains les moyens d'exécuter son projet, et que l'occasion lui était fournie sans qu'il y fût pour rien. Telle était sa passion. Il se croyait si pleinement en droit de se soustraire à la gêne de sa première condition pour suivre une nouvelle et plus noble carrière, que sa conscience ne s'alarmait nullement, qu'il ne s'éveillait en lui aucune inquiétude, qu'il se faisait même de cette feinte un devoir sacré. Il était persuadé que ses parents et sa famille approuveraient plus tard et béniraient sa conduite. Il croyait reconnaître dans ce concours de circonstances l'appel de la destinée qui lui traçait le chemin. Que le temps lui parut long jusqu'à la nuit, jusqu'à l'heure où il devait revoir son amante. Retiré dans sa chambre, il méditait son plan de voyage, comme un adroit voleur ou un magicien, dans sa prison, dégage quelquefois ses pieds des étroites chaînes pour nourrir en lui la persuasion que son évasion est possible, et même plus prochaine que ne l'imaginent ses gardiens imprévoyants. Enfin, l'heure tardive sonna, il sortit de la maison, secoua toute contrainte et parcourut les rues silencieuses. Dans la grande place, il leva les mains au ciel. Il sentait tout derrière lui et sous ses pieds. Il s'était séparé de tout. Il se voyait dans les bras de sa maîtresse, puis, à ses côtés, sur une scène éblouissante. Il se berçait d'espérances infinies, et la voix du crieur de nuit lui rappelait seule quelquefois qu'il était encore sur la terre. Marianne vint au-devant de lui sur l'escalier. Qu'elle était belle, qu'elle était charmante. Elle le reçut en négligé de mousseline blanche. Il ne croyait pas l'avoir vue encore aussi ravissante. C'est ainsi qu'elle consacrait la parure que l'absent lui avait donnée à l'heureux amant qui la pressait dans ses bras. Avec une véritable passion, elle prodiguait à son bien-aimé tout le trésor des caresses que lui inspirait la nature, que l'art lui avait enseigné. Et l'on demanderait s'il fut charmé, s'il se sentait heureux. Il apprit à Marianne ce qui s'était passé, et lui exposa en quelques mots son plan et ses désirs. Il voulait s'assurer un engagement. Après quoi, il viendrait la chercher. Il espérait qu'alors elle ne lui refuserait pas sa main. La pauvre fille garda le silence, elle cacha ses larmes et pressa contre son cœur son ami, qui s'expliquait ce silence de la manière la plus favorable, mais qui aurait pourtant désiré une réponse, surtout lorsqu'il eut fini par lui demander, d'une voix tendre et discrète, s'il ne pouvait pas espérer d'être père. Mais elle ne répondit encore que par un soupir, un baiser. Chapitre 12. Le lendemain, Marianne ne s'éveilla que pour sentir un nouveau chagrin. Elle se trouvait isolée, elle ne pouvait voir le jour, elle restait au lit et pleurait. La vieille s'assit auprès d'elle, elle cherchait à l'encourager, à la consoler, mais elle ne réussit pas à guérir si tôt ce cœur blessé. Le moment approchait que la pauvre fille avait envisagé comme le dernier de sa vie. Et pouvait-on se voir dans une situation plus douloureuse? Le bien-aimé s'éloignait. Un galant importun la menaçait de son retour, et le plus grand malheur était à craindre s'il venait à se rencontrer, comme il était bien facile. « Calme-toi, ma chère enfant !» s'écria la vieille. « Ne me gâte pas tes beaux yeux à force de pleurer. Est-ce donc un si grand malheur d'avoir deux amants ? Si tu ne peux accorder qu'à l'un d'eux ta tendresse, sois du moins reconnaissante envers l'autre, qui, par les attentions qu'il a pour toi, mérite assurément de devenir ton ami. » « Mon amant lui-même, répondit Marianne éplorée, a pressenti qu'une séparation nous menaçait. Un songe lui a découvert ce que nous cherchons à lui cacher avec tant de soin. Il dormait, tranquille à mes côtés. Tout à coup, je l'entends murmurer quelques paroles inquiètes, inintelligibles. Je suis alarmée, je l'éveille. Avec quel amour, quelle tendresse, quelle ardeur il m'embrasse. « Oh, Marianne, s'est-il écrié, à quelle horrible situation tu m'as arrachée. Comment puis-je assez te remercier pour m'avoir délivrée de cet enfer? Je rêvais, poursuivit-il, que je me trouvais éloignée de toi, dans une contrée inconnue. Mais ton image planait devant moi. Je te voyais sur une belle colline. Le soleil éclairait tout ce lieu. Que tu me paraissais ravissante. Mais au bout de quelques moments, je vis ton image descendre, en glissant, descendre toujours. Je te tendis les bras. Il ne pouvait atteindre si loin. Ton image s'abaissait toujours et s'approchait d'un grand lac, ou plutôt d'un marais, qui s'étendait au pied de la colline. Tout à coup, un homme te donna la main. Il semblait vouloir te ramener en haut, mais il te mena du côté d'en bas et parut entraîné après lui. Je poussais des cris, voyant que je ne pouvais atteindre jusqu'à toi. J'espérais t'avertir. Si je voulais marcher, mes pieds étaient comme attachés à la terre. Si je parvenais à faire quelques pas, l'eau m'arrêtait, et même mes cris expiraient dans ma poitrine oppressée. Voilà ce que m'a raconté le pauvre Willem en se remettant de sa frayeur sur mon sein et se félicitant de voir un songe horrible s'évanouir devant la plus délicieuse réalité. La vieille chercha, comme elle put, à faire redescendre, avec le secours de sa prose, la poésie de Marianne dans le domaine de la vie ordinaire, et se servit pour cela du moyen qui réussit aux oiseleurs, c'est d'imiter de leur mieux, avec un appôt, le chant des oiseaux qu'ils désirent voir bientôt par troupes dans leur filet. Elle fit l'éloge de Wilhelm, vanta sa tournure, ses yeux, son amour. La pauvre fille l'écoutait avec plaisir. Elle se leva, se laissa habiller et parut plus tranquille. « Mon enfant, ma chère, poursuivit Barbara d'une voix caressante, je ne veux ni t'affliger ni t'offenser. Je ne songe pas à te ravir ton bonheur. Peux-tu méconnaître mes intentions? As-tu donc oublié que je me suis toujours plus inquiétée de toi que de moi-même? Dis-moi seulement ce que tu veux. Nous chercherons le moyen de te satisfaire. » « Que puis-je vouloir ? » reprit Marianne. « Je suis malheureuse, malheureuse pour toute ma vie. Je l'aime, il m'aime. Je vois qu'il faut me séparer de lui et ne sais pas comment je pourrai y survivre. Voici Norbert à qui nous devons toute notre existence et dont nous ne pouvons nous passer. Les ressources de Wilhelm sont très bornées. Il ne peut rien faire pour moi. » « Oui. » Il est malheureusement du nombre de ces amoureux qui n'apportent autre chose que leur cœur, et ce sont justement ceux-là qui ont les plus hautes prétentions. Ne raille pas. Le malheureux songe à quitter la maison paternelle, à monter sur le théâtre, à m'offrir sa main. Nous avons déjà quatre mains vides. Je ne sais que résoudre, poursuivit Marianne. Prononce, pousse-moi d'un côté ou de l'autre. Mais sache que je crois porter dans mon sein un gage qui devrait nous unir plus encore l'un à l'autre. Réfléchis et décide lequel je dois quitter, lequel je dois suivre. » Après un moment de silence, la vieille s'écria. « Faut-il que la jeunesse flotte sans cesse entre les extrêmes? Je ne trouve rien de plus naturel que d'unir ensemble ce qui nous procure plaisir et profit. Tu aimes l'un? Eh bien, que l'autre paie. Il s'agit seulement de veiller à ce qu'ils ne se rencontrent pas. Fais ce que tu voudras. Je suis hors d'état de réfléchir. Je me laisserai conduire. Nous avons l'avantage de pouvoir alléguer le caprice du directeur, qui est fier des mœurs de sa troupe. Les deux amants ont déjà l'habitude des précautions et du mystère. C'est moi qui réglerai l'heure et l'occasion. Sois prête seulement à jouer le rôle que je te prescrirai. Qui sait quelles circonstances viendront à notre secours? Si seulement Norbert arrivait tandis que Wilhelm est absent, qui te défend de penser à l'un dans les bras de l'autre? Je te souhaite un fils, crois-moi, son père sera riche. » Ces représentations ne tranquillisèrent Marianne que peu de temps. Elle ne pouvait accorder sa position avec ses sentiments, avec la voix de son cœur. Elle désirait oublier cette douloureuse situation, et mille petites circonstances la lui rappelaient sans cesse. Chapitre 13. Sur l'entrefaite, Wilhelm était arrivé au terme de son petit voyage, et, n'ayant pas trouvé le correspondant à la maison, il remit à sa femme la lettre d'introduction. Mais elle ne lui fit elle-même que des réponses vagues. Elle était dans une violente agitation et toute la maison était dans un grand désordre. Au bout de quelques moments, elle lui confia, et ce n'était plus un secret, que sa belle-fille venait de prendre la fuite avec un comédien qui avait quitté récemment une petite troupe, s'était fixé dans la ville et y donnait des leçons de français. Le père, transporté de douleur et de colère, avait couru chez le bailli pour faire poursuivre les fugitifs. La femme se répandait en reproches contre sa belle-fille, en outrages contre l'amant. À l'entendre, ils ne méritaient l'un et l'autre que le mépris. Elle déplora dans un flux de paroles la honte qui en rejaillirait sur la famille et ne mit pas dans un petit embarras Wilhelm, qui se sentait blâmé et condamné d'avance, lui et son dessein secret, par cette sibylle, avec un esprit en quelque sorte prophétique. Mais il prit une part plus vive et plus sentie à l'affliction du père, qui revint de chez le bailli, apprit à sa femme, à demi-mot, avec une douleur concentrée, ce qu'il avait fait. Et, après avoir parcouru la lettre, fit amener le cheval devant Wilhelm, sans pouvoir cacher son trouble et sa préoccupation. Wilhelm voulait monter à cheval sur le champ et s'éloigner d'une maison où il ne pouvait se trouver à son aise dans de pareilles circonstances. Mais le brave homme ne voulut pas laisser partir, sans l'avoir fait asseoir à sa table et loger une nuit sous son toit, le fils d'une maison à laquelle il était si redevable. Notre ami, après avoir fait un triste souper et avoir passé une nuit agitée, se hâta de quitter dès le grand matin ces pauvres gens qui, sans le savoir, l'avaient fait cruellement souffrir par leurs récits et leurs confidences. Il cheminait lentement, livré à ses rêveries, quand tout à coup il vit venir à travers champs une troupe de gens armés, qu'à leurs longs et larges habits, leurs grands parements, leurs informes chapeaux et leurs armes pesantes, leur air débonnaire et leur tenue nonchalante, il reconnut sur le champ pour un détachement de milice. Ils firent halte sous un vieux chêne, posèrent leurs fusils et se couchèrent à leur aise sur le gazon pour fumer une pipe. Wilhelm s'arrêta près d'eux et entra en conversation avec un jeune homme qui arrivait à cheval. Il dut essuyer un nouveau récit de l'histoire des deux fugitifs, qui ne lui était que trop connu, et qui fut accompagné cette fois de réflexions assez peu favorables au jeune couple comme aux parents. Il apprit en même temps que la milice était venue dans ce lieu recevoir les deux amants, qu'on avait atteints et arrêtés dans le bourg voisin. Bientôt, on vit arriver de loin une charrette, à laquelle une garde bourgeoise formait une escorte plus ridicule que terrible. Un greffier burlesque prit les devants à cheval, et, s'approchant de son confrère de l'autre juridiction, le jeune homme avec qui Wilhelm s'était entretenu, le salua, à la limite même, avec une scrupuleuse exactitude et des gestes bizarres, à peu près comme pourrait faire un esprit et un magicien, l'un en dedans, l'autre en dehors du cercle, dans leur dangereuse opération nocturne. Cependant, l'attention des spectateurs s'était dirigée sur la charrette, et l'on considérait, non sans pitié, les pauvres fugitifs, qui étaient assis sur des bottes de paille, se regardaient avec tendresse et semblaient à peine remarquer les assistants. On s'était vu accidentellement forcé de les amener du dernier village d'une manière si malséante, parce que le vieux carrosse dans lequel on avait mis la belle s'était brisé. À cette occasion, elle supplia qu'on la réunît à son amant, qu'on avait jusque-là fait marcher à côté de la voiture, chargée de chaînes, dans la persuasion qu'il était atteint et convaincu d'un crime capital. Ces chaînes contribuaient à rendre encore plus intéressante la vue du groupe amoureux, le jeune homme se conduisant d'ailleurs avec beaucoup de décence et baisant par intervalles les mains de sa bien-aimée. « Nous sommes bien malheureux, » disait-elle à ceux qui les entouraient. « Mais non aussi coupables que nous le paraissons. C'est ainsi que des hommes cruels récompensent un amour fidèle, et que des parents qui négligent absolument le bonheur de leurs enfants les arrachent avec violence à la joie, qui leur ouvrait son sein après de longs jours de tristesse. » Tandis que les assistants témoignaient de diverses manières leur compassion, la justice avait accompli ses formalités. La charrette se remit en marche, et Wilhelm, qui prenait une grande part au sort des amants, courut en avant par un sentier pour faire connaissance avec le bailli avant l'arrivée de la troupe. Mais, à peine avait-il gagné la maison, où tout était en mouvement et disposé pour la réception des fugitifs, que le greffier survint, et, faisant un récit détaillé de tout ce qui s'était passé, et surtout un éloge infini de son cheval, que le juif lui avait cédé la veille par échange, il empêcha toute autre conversation. Déjà l'on avait déposé le couple infortuné dans le jardin, qui communiquait avec la maison du bailli par une porte dérobée, et on les avait introduits secrètement. Le greffier reçut les compliments sincères de Wilhelm pour ses ménagements, bien qu'il n'eût voulu, dans le fond, que narguer le peuple assemblé devant la maison, et lui dérober l'agréable spectacle de l'humiliation d'une concitoyenne. Le bailli, qui avait peu de goût pour ces cas extraordinaires, parce qu'il commettait le plus souvent quelques bévues, et qu'il recevait ordinairement de l'autorité supérieure, en récompense de ses excellentes intentions, une verte réprimande, se rendit à pas lents à son tribunal, suivi du greffier, de Wilhelm et de quelques notables bourgeois. D'abord, on introduisit la belle, qui se présenta sans arrogance, avec calme et dignité. Sa toilette et toutes ses manières annonçaient une jeune fille qui s'estimait. Elle commença, avant d'être interrogée, à parler, non sans adresse, de sa situation. Le greffier lui imposa silence et tenait sa plume toute prête sur le papier. Le bailli se donna une contenance, regarda le greffier, toussa légèrement et demanda à la pauvre enfant son nom et son âge. « Permettez, monsieur, répliqua-t-elle, je dois trouver fort singulier que vous me demandiez mon nom et mon âge, quand vous savez fort bien comment je m'appelle et que je suis du même âge que votre fils aîné. Ce que vous voulez et ce que vous devez savoir de moi, je vous le dirai volontiers sans détour. Depuis le second mariage de mon père, je ne suis pas trop bien traitée dans la maison. Il s'est offert pour moi quelques bons partis, mais ma belle-mère, que la dot effrayait, a su les écarter. J'ai fait la connaissance du jeune Mélina. Il a su se faire aimer, et prévoyant les obstacles qui s'opposeraient à notre union, nous avons résolu de chercher ensemble, dans le monde, un bonheur que nous ne pouvions espérer dans ma famille. Je n'ai rien emporté que ce qui m'appartenait. Nous n'avons pas pris la fuite comme des voleurs et des brigands, et mon amant ne mérite pas qu'on le traîne de lieu en lieu, enchaîné et garrotté. Le prince est juste, il n'approuvera pas cette rigueur. Si nous sommes coupables, nous ne le sommes pas jusqu'à mériter ces traitements. » À ces mots, le vieux bailli se trouva dans un double et triple embarras. Déjà, les gracieuses mercuriales bourdonnaient autour de ses oreilles. L'éloquence facile de la jeune personne avait absolument troublé son projet de procès-verbal. Ce fut bien pis encore lorsque, sur les questions d'usage qui lui furent répétées, elle refusa de plus en plus d'explications et se référa constamment à ce qu'elle avait dit. « Je ne suis pas une criminelle !» s'écria la jeune fille. « On m'a traînée ici honteusement sur la paille. Il y a une justice supérieure qui nous rendra l'honneur. » Le greffier, qui avait couché par écrit toutes ces paroles, dit tout bas au bailli qu'il n'avait qu'à poursuivre l'interrogatoire, que l'on pourrait ensuite rédiger un procès-verbal en bonne forme. Le bailli reprit courage et commençait à s'enquérir sèchement, avec les arides formules traditionnelles, des doux mystères de l'amour. La rougeur monta au visage de Wilhelm. Les joues de la gentille pécheresse s'animèrent en même temps du charmant coloris de la pudeur. Elle se tut, elle hésita. Enfin, l'embarras même sembla relever son courage. « Soyez convaincue, s'écria-t-elle, que j'aurais assez de force pour déclarer la vérité quand je devrais parler contre moi-même. Devrais-je hésiter et reculer quand elle me fait honneur ? Oui, dès le moment où je fus assurée de son attachement et de sa fidélité, je l'ai regardé comme mon époux. Je lui ai volontiers accordé tout ce que l'amour demande et que les cœurs bien épris ne peuvent refuser. Maintenant, faites de moi ce que vous voudrez. Si j'ai balancé un moment à faire cet aveu, la crainte qu'il ne put avoir pour mon amant des suites fâcheuses en était la seule cause. » Sur cet aveu, Wilhelm prit une haute idée des sentiments de la jeune fille, tandis que les juges la déclaraient une effrontée, et que les bourgeois présents rendaient grâce à Dieu de ce qu'une chose pareille n'était pas arrivée dans leur famille, ou du moins n'avait pas été connue. À ce moment, Wilhelm se figurait sa Marianne devant le tribunal. Il mettait dans sa bouche des paroles plus belles encore, lui prêtait une franchise encore plus ingénue et un plus noble aveu. Le plus ardent désir de secourir les deux amants s'empara de lui. Il ne le cacha point et pria secrètement le bailli, incertain de mettre fin à la chose, tout étant aussi clair que possible et n'exigeant aucune nouvelle information. Il obtint du moins que l'on fît retirer la jeune fille. Mais l'on amena le jeune homme à son tour, après lui avoir ôté ses fers. Il paraissait plus inquiet de son sort, ses réponses étaient plus posées, et si, d'un côté, il montrait moins d'héroïque franchise, il se recommandait par la fermeté et la liaison de ses réponses. Cet interrogatoire étant aussi terminé, et se trouvant d'accord en tout avec le précédent, si ce n'est que, pour épargner la jeune fille, l'accusée niait obstinément ce qu'elle avait avoué. On la fit reparaître, et la scène qui se passa entre les deux amants acheva de leur gagner le cœur de notre ami. Il voyait, dans une triste chambre de justice, ce qu'on a coutume de rencontrer que dans les romans et les comédies. Le combat d'une générosité mutuelle, l'énergie de l'amour dans le malheur. « Est-il donc vrai, se disait-il, que la craintive tendresse, qui se cache au regard du soleil et des hommes, et n'ose jouir d'elle-même que dans une solitude écartée, dans un profond mystère, si quelque hasard ennemi la traîne en spectacle, se montre alors plus ferme, plus forte, plus courageuse que d'autres passions, qui font beaucoup d'étalage et de bruit ?» À sa grande satisfaction, toute l'affaire fut bientôt terminée. Les prisonniers furent gardés avec assez de ménagement, et, s'il eût été possible, Wilhelm aurait ramené, dès le même soir, la jeune personne à ses parents. Car il se proposait de faire l'office de médiateur et de favoriser l'heureuse et décente union des deux amants. Il sollicita du bailli la permission d'entretenir Mélina en particulier, ce qui lui fut accordé sans difficulté. Chapitre 14. La conversation des deux nouveaux amis fut bientôt vive et familière. Car, lorsque Wilhelm eut fait connaître au jeune homme découragé ses rapports avec les parents de la demoiselle, qu'il se fût offert pour médiateur et qu'il eût montré lui-même les meilleures espérances, la sérénité reparut dans l'âme attristée et soucieuse du prisonnier. Il se voyait déjà délivré, réconcilié avec les parents de sa femme, et dès lors, il fut question de ce qu'il pourrait faire pour subsister. « Cela ne doit pas vous embarrasser, dit Wilhelm, car vous me semblez l'un et l'autre destinés par la nature à réussir dans la profession que vous avez choisie. Un extérieur agréable, une voix sonore, un cœur plein de sentiments, des acteurs peuvent-ils être mieux doués? Je puis vous offrir quelques recommandations, et je serai charmé de vous être utile. » « Je vous remercie de tout mon cœur, répondit Mélina, mais il me sera difficile d'en profiter. « Car si je puis faire autrement, je ne reparaîtrai jamais sur le théâtre. »« Vous avez grand tort, » dit Wilhelm après un moment de silence, pendant lequel il s'était remis de son étonnement, car il n'avait pas douté que le comédien, une fois qu'il serait libre avec sa jeune femme, ne revint bien vite au théâtre. Cela lui semblait aussi naturel et nécessaire qu'à la grenouille de chercher l'eau. Il n'en avait pas douté un instant, et c'était avec surprise qu'il apprenait le contraire. « Oui, reprit Mélina, j'ai résolu de ne jamais en revenir au théâtre, de me charger plutôt d'un emploi civil, quel qu'il soit, et puissé-je en obtenir un ?»« C'est là une singulière résolution, que je ne saurais approuver, car il n'est jamais sage de quitter, sans motif particulier, le genre de vie qu'on a choisi. Et d'ailleurs, je ne sais aucune profession qui offre autant d'agréments, autant de perspectives séduisantes que celle de comédien. On voit que vous ne l'avez jamais été. Monsieur, il est bien rare que l'homme soit content de la position où il se trouve. Il désire toujours celle de son voisin, qui, de son côté, n'aspire qu'à la quitter. Il y a toutefois une différence entre le mauvais et le pire. C'est l'expérience et non l'impatience qui me fait agir ainsi. Est-il au monde un morceau de pain plus amer, plus précaire, plus péniblement gagné? Autant vaudrait, peu s'en faut, m'en dire aux portes. Qui sait ce que nous fait souffrir la jalousie de nos camarades, la partialité d'un directeur, le volage caprice du public? En vérité, il faut avoir la peau de l'ours qui est promenée à la chaîne, en société avec les singes et les chiens, pour danser au son de la cornemuse devant les enfants et la populace. Wilhelm me faisait en lui-même mille réflexions diverses, mais il ne voulait pas les jeter à la face du bon jeune homme. Il usa donc avec lui de ménagement dans ses réponses, et Mélina s'épancha avec d'autant plus de franchise et d'abondance. « Ne faudrait-il pas, ajouta-t-il, qu'un directeur alla se jeter aux pieds de tout conseil municipal pour obtenir la permission de faire circuler dans une bourgade quelques sous de plus pendant 4 semaines à l'époque de la foire? J'ai souvent plaint le nôtre, un brave homme, quoiqu'il m'ait donné parfois des sujets de mécontentement. Un bon acteur le rançonne. Il ne peut se délivrer des mauvais. Et s'il veut mettre quelques proportions entre ses recettes et sa dépense, le public trouve d'abord les places trop chères. La salle reste vide, et pour ne pas se ruiner tout à fait, il faut jouer avec perte et chagrin. Non, monsieur, puisque vous voulez bien, comme vous dites, vous intéresser à nous, je vous en prie, parlez de la manière la plus pressante aux parents de ma bien-aimée. Que l'on me procure ici un gagne-pain, que l'on me donne un petit emploi de secrétaire ou de receveur, et je m'estime heureux. » Après qu'ils eurent encore échangé quelques paroles, Wilhelm quitta le prisonnier en promettant de se rendre le lendemain de bonne heure chez les parents et de voir ce qu'il pourrait faire. À peine fut-il seul qu'il s'écria pour soulager son cœur « Malheureux Mélina, ce n'est pas dans ta profession, c'est en toi-même que sont les misères dont tu ne peux t'affranchir. Eh, quel homme, enfin, s'il embrasse sans vocation un métier, un art, un genre de vie quelconque, ne devrait pas, comme toi, trouver son état insupportable. Celui qui est né avec un talent, et pour un talent, y trouve la couronne de sa vie. » Il n'est rien au monde qui n'offre des difficultés. L'élan de l'âme, le plaisir, l'amour, nous aident seuls à surmonter les obstacles, à frayer la route et à nous élever au-dessus de l'étroite sphère où la foule s'agite misérablement. Pour toi, Mélina, les planches ne sont que des planches et les rôles, ce que le pensum est pour l'écolier. Tu vois les spectateurs comme ils se voient eux-mêmes dans les jours ouvriers. Il pourrait sans doute te sembler indifférent d'être assis devant un pupitre, penché sur des livres rayés, d'enregistrer des recettes, d'apurer de vieux contes. Tu ne sens pas cet ensemble harmonieux, plein de flammes, que le génie seul peut imaginer, comprendre, exécuter. Tu ne sens pas qu'il existe dans l'homme une plus noble étincelle, qui, si elle ne reçoit aucun aliment, si elle n'est pas stimulée, est toujours plus ensevelie sous la cendre des besoins journaliers et de l'indifférence, et même ainsi n'est que bien tard étouffée ou ne l'est peut-être jamais. Tu ne sens en toi-même aucun souffle pour l'animer, dans ton cœur aucun aliment pour la nourrir après l'avoir éveillée. La faim te presse, les contrariétés te chagrinent, et tu ne sais pas voir que dans tous les états, ses ennemis nous guettent, et qu'on n'en peut triompher que par la sérénité et l'égalité d'âme. C'est avec raison que tu aspires à te renfermer dans les bornes étroites d'une position vulgaire, car laquelle pourrais-tu bien remplir de celle qui demande de l'ardeur et du courage? Donne tes sentiments aux soldats, à l'homme d'État, aux prêtres, et ils pourront, avec autant de raison, déplorer les misères de leurs conditions. Et n'a-t-on pas vu même des hommes, chez lesquels tout sentiment de vie manquait si complètement, qu'ils ont proclamé toute la société, toutes les affaires humaines, un néant, une vaine et méprisable poussière? Si les figures d'hommes agissants s'éveillaient et vivaient dans ton âme, si une flamme sympathique échauffait ton sein, si l'émotion qui vient du cœur se répandait sur toute ta personne, alors les inflexions de ta voix, les paroles de tes lèvres charmeraient les auditeurs. Si tu te sentais toi-même, tu chercherais sans doute le lieu et l'occasion de te sentir dans les autres. Au milieu de ses discours et de ses pensées, notre ami s'était déshabillé et il se couchait avec un sentiment de satisfaction secrète. Tout un roman de ce qu'il ferait le lendemain, s'il était à la place de l'indigne Mélina, se développa dans son esprit. D'agréables chimères l'accompagnèrent doucement dans le royaume du sommeil et l'abandonnèrent à leurs frères, les songes, qui le reçurent dans leurs bras ouverts et firent planer autour de sa tête endormie les visions du ciel. Il se leva de grand matin pour s'occuper de la négociation qui l'attendait. Il retourna chez les parents abandonnés qui l'accueillirent avec surprise. Il présenta modestement sa requête et trouva bientôt plus et moins de difficultés qu'il n'avait présumé. La chose était faite, et quoique les gens d'une sévérité et d'une dureté extraordinaires aient coutume de se roidir avec violence contre le passé et l'irréparable et d'augmenter ainsi le mal, la chose accomplie a sur la plupart des esprits un pouvoir irrésistible. Et ce qui semblait impossible prend sa place, aussitôt après l'événement, à côté des faits ordinaires. Il fut donc bientôt convenu que M. Mélina épouserait la fille du marchand. Mais, vu sa mauvaise conduite, elle ne recevrait aucune dot et promettrait de laisser quelques années encore, à un bas intérêt, dans les mains de son père, l'héritage d'une tante. Le deuxième point, relatif à un emploi civil, rencontra déjà de plus grandes difficultés. On ne voulait pas voir devant ses yeux une fille dénaturée. On ne voulait pas s'exposer, par la présence de l'homme, à s'entendre incessamment reprocher l'alliance d'un aventurier avec une honorable famille, qui était même apparentée à un surintendant. On ne pouvait pas davantage espérer que l'administration lui voulût confier une place. Le mari et la femme se prononcèrent contre ce projet avec la même force, et Wilhelm parla très vivement pour le faire accepter, parce qu'il ne voyait pas de bon œil qu'un homme dont il faisait peu d'estime reparût sur le théâtre, étant persuadé qu'il ne méritait pas un pareil bonheur. Mais, avec tous ses arguments, il ne put rien obtenir. S'il avait connu les motifs secrets des parents, il n'aurait pas pris la peine de chercher à les persuader. Le père, qui aurait volontiers retenu sa fille auprès de lui, haïssait le jeune homme, parce que sa femme elle-même avait jeté les yeux sur lui, et celle-ci ne pouvait souffrir devant ses yeux une heureuse rivale dans la personne de sa belle-fille. Ainsi donc, Mélina, forcée de s'éloigner avec sa jeune femme, qui témoignait déjà une plus grande envie de voir le monde et d'en être vue, dut partir, peu de jours après, pour chercher dans quelques troupes un engagement. Chapitre 15. Heureuse jeunesse, heureux temps des premières amours. L'homme est alors comme un enfant, qui s'amuse pendant des heures avec l'écho, fait seul les frais de la conversation et s'en trouve toujours assez content. quand même l'interlocuteur invisible ne répète que les dernières syllabes des mots qu'on lui jette. Tel était Wilhelm dans les premiers et surtout dans les derniers temps de sa passion pour Marianne, lorsqu'il reportait sur elle tous les trésors de ses sentiments et se regardait auprès d'elle comme un mendiant qui vivait de ses aumônes. De même qu'une contrée nous paraît plus charmante, ou plutôt ne nous charme que dorée par le soleil, tout ce qui entourait Marianne, tout ce qui la touchait, était plus beau, plus magnifique aux yeux de son amant. Combien de fois il se tenait, au théâtre, derrière les coulisses, privilège qu'il avait sollicité et obtenu du directeur. Alors, sans doute, la magie de la perspective avait disparu, mais le charme bien plus puissant de l'amour commençait à opérer avec toute sa force. Il pouvait rester des heures auprès de l'immonde char de lumière, respirer la fumée des lampes, suivre des yeux sa bien-aimée sur la scène, et lorsqu'elle rentrait dans les coulisses et le regardait avec amitié, il se sentait ivre de joie. Et parmi cet échafaudage de planches et de solives, il se croyait transporté dans un paradis. Les agneaux empaillés, les cascades en toile gommée, les rosiers de carton, les chaumières qui n'avaient qu'une seule face, éveillaient en lui d'aimables et poétiques images d'un vieux monde pastoral. Les danseuses, même les plus laides à voir de près, ne lui déplaisaient pas toujours, parce qu'elle figurait sur les mêmes planches que son amante. Il est donc vrai que l'amour, qui sait d'abord animer les berceaux de roses, les bosquets de myrtes et le clair de lune, peut donner aussi une apparence de vie aux rognures de bois et aux découpures de papier. C'est un merveilleux assaisonnement qui peut rendre appétissants les ragoûts les plus insipides. Cette magie était assurément nécessaire pour lui rendre supportable, agréable même, dans la suite, l'état où il trouvait d'ordinaire la chambre de Marianne et parfois aussi sa personne. Élevé dans une élégante maison bourgeoise, il vivait dans l'ordre et la propreté comme dans son élément. Ayant hérité une partie des goûts fastueux de son père, il avait su, dès son enfance, décorer pompeusement sa chambre, qu'il regardait comme son petit royaume. Les rideaux de son lit étaient relevés à grands plis et retenus par une campane, comme on a coutume de représenter les trônes. Un tapis couvrait le plancher et un autre, plus précieux, la table. Il plaçait et disposait ses livres et ses meubles avec un soin si minutieux qu'un peintre flamand aurait pu en tirer des groupes excellents pour ses tableaux d'intérieur. Il avait disposé un bonnet de coton en forme de turban et fait tailler, dans le goût oriental, les manches de sa robe de chambre. Il en donnait toutefois pour motif que les longues et larges manches le gênaient pour écrire. Le soir, lorsqu'il était seul et qu'il n'avait plus à craindre d'être dérangé, il passait d'ordinaire une écharpe de soie autour de son corps. On assure même qu'il mettait quelquefois à sa ceinture un poignard déterré dans un vieux dépôt d'armure. Équipé de la sorte, il répétait ses rôles tragiques, et c'était dans les mêmes dispositions que, s'agenouillant sur le tapis, il faisait sa prière. Comme alors il trouvait heureux le comédien qu'il voyait possesseur de tant d'habits majestueux, d'équipements et d'armes, ne cessant jamais de s'exercer aux nobles manières, et dont l'âme semblait un miroir fidèle des situations, des passions, des sentiments les plus admirables et les plus sublimes que le monde eût jamais produits. Wilhelm se représentait aussi la vie privée d'un comédien comme une suite de nobles actions et de travaux, dont son apparition sur le théâtre était le couronnement. À peu près comme l'argent, longtemps exposé à la flamme qu'il éprouve, paraît enfin brillamment coloré aux yeux de l'ouvrier et lui annonce en même temps que le métal est pur de tout alliage. aussi. Quelle fut d'abord sa surprise lorsqu'il se trouva chez sa maîtresse et qu'à travers le renuage qui l'entourait, il jeta un coup d'œil à la dérobée sur la table, les sièges et le parquet. Les débris d'une toilette fugitive, fragile et menteuse, étaient là, pêle-mêle, dans un désordre affreux, comme la robe éclatante des poissons écaillés. L'attirail de la propreté, les peignes, les savons, les serviettes, la pommade, restaient exposés à la vue, avec les traces de leur usage. Musique, rôles et souliers, linge de corps et fleurs artificielles, étuis, épingles à cheveux, peaux de phare et rubans, livres et chapeaux de paille, ne dédaignaient pas le voisinage l'un de l'autre. Tous étaient réunis dans un élément commun, la poudre et la poussière. Mais comme, en présence de Marianne, Wilhelm faisait peu d'attention à tout le reste, que même tout ce qui lui appartenait, ce qu'elle avait touché, lui devenait agréable, il finit par trouver à ce ménage en désordre un charme qu'il n'avait jamais senti au milieu de sa brillante et pompeuse régularité. Lorsqu'il déplaçait le corset de Marianne pour ouvrir le clavecin, qu'il posait ses robes sur le lit pour trouver où s'asseoir, lorsqu'elle-même, avec une liberté naïve, ne cherchait pas à lui cacher certains détails que la décence a coutume de dérober au regard, il lui semblait que chaque instant le rapprochait d'elle, qu'il s'établissait entre eux une existence commune, resserrée par d'invisibles liens. Il ne lui était pas aussi facile d'accorder avec ses idées la conduite des autres comédiens qu'il rencontrait quelquefois chez Marianne dans ses premières visites. Occupés à ne rien faire, ils ne semblaient pas songer du tout à leur vocation et à leur état. Wilhelm ne les entendait jamais discourir sur le mérite poétique d'une pièce de théâtre et en porter un jugement juste ou faux. La question unique était toujours « Cette pièce fera-t-elle de l'argent? Fera-t-elle courir le monde? Combien de fois pourra-t-elle être donnée ?» Et autres réflexions pareilles. Puis on se déchaînait ordinairement contre le directeur. Il était trop avare d'appointements et surtout injuste envers tel ou tel. Puis on en venait au public. On disait qu'il accorde rarement ses suffrages aux vrais talents, que le théâtre allemand se perfectionne de jour en jour, que l'acteur est toujours plus honoré selon ses mérites et ne saurait jamais l'être assez. Puis l'on parlait beaucoup des cafés et des jardins publics et de ce qui s'y était passé, des dettes d'un camarade qui devait subir des retenues, de la disproportion des appointements, des cabales d'un parti contraire. Sur quoi l'on finissait pourtant par signaler de nouveau la grande et légitime attention du public et l'influence du théâtre sur la culture d'une nation et sur celle du monde n'était pas oubliée. Toutes ces choses, qui avaient déjà fait passer à Wilhelm bien des heures inquiètes, lui revenaient alors à la mémoire, tandis que son cheval le ramenait lentement à la maison, et il réfléchissait aux diverses aventures qu'il avait rencontrées. Il avait vu de ses yeux le trouble que la fuite d'une jeune fille avait jeté dans une bonne famille bourgeoise, et même dans un bourg tout entier. Les scènes du grand chemin et de la maison du bailli, les sentiments de Mélina et tout le reste, se représentaient à lui et jetaient son esprit vif, impétueux, dans une pénible inquiétude, qu'il ne souffrit pas longtemps. Il donna de l'éperon à son cheval et se hâta de gagner la ville. Mais il ne faisait que courir au-devant de nouveaux chagrins. Werner, son ami et son futur beau-frère, l'attendaient pour entamer avec lui un entretien sérieux, important et inattendu. Werner était un de ces hommes éprouvés, persévérants dans leurs habitudes, qu'on a coutume d'appeler « froids », parce que, dans l'occasion, ils ne s'enflamment ni promptement ni visiblement. Aussi, son commerce avec Wilhelm était-il une lutte perpétuelle, mais qui ne faisait que resserrer les liens de leur amitié. Car, malgré la différence de leurs opinions, chacun d'eux trouvait son compte avec l'autre. Werner s'applaudissait en lui-même, parce qu'il semblait mettre de temps en temps le mort et la bride à l'esprit de Wilhelm. Excellent, sans doute, mais parfois exalté. Et Wilhelm sentait souvent une joie triomphante lorsqu'il entraînait son prudent ami dans ses bouillants transports. Ils s'exerçaient ainsi l'un sur l'autre. Ils s'étaient accoutumés à se voir tous les jours, et l'on aurait dit que le désir de se rencontrer, de s'entretenir, fut augmenté par l'impossibilité de se mettre d'accord. Au fond, comme ils étaient bons l'un et l'autre, ils marchaient côte à côte, ensemble, au même but, et ne parvenaient pas à comprendre pourquoi ni l'un ni l'autre ne pouvait amener son ami à son sentiment. Werner remarquait depuis quelque temps que les visites de Wilhelm devenaient plus rares. Dans ses sujets favoris, il était bref, distrait et coupait court à l'entretien. Il ne s'arrêtait plus à développer vivement des idées singulières, en quoi se fait le plus sûrement reconnaître un cœur libre, qui trouve le repos et le contentement en présence d'un ami. Werner, attentif et circonspect, en chercha d'abord la faute dans sa propre conduite. Mais quelques bruits de ville le mirent sur la voie, et quelques imprudences de Wilhelm firent approcher son ami de la vérité. Il alla au renseignement et découvrit bientôt que depuis quelque temps, Wilhelm avait fréquenté ouvertement une comédienne, lui avait parlé au théâtre, l'avait reconduite chez elle. Il eût été inconsolable s'il avait eu aussi connaissance des rendez-vous nocturnes, car on lui disait que Marianne était une séductrice, qui vraisemblablement dépouillait son ami, et se faisait en même temps entretenir par le plus indigne amant. Aussitôt que ses soupçons approchèrent de la certitude, il résolut d'attaquer Wilhelm, et toutes ses batteries étaient prêtes, quand son ami, triste et mécontent, revint de son voyage. Dès le même soir, Werner lui communiqua tout ce qu'il savait, d'abord avec calme, ensuite avec la pressante sévérité d'une amitié dévouée. Il n'oublia pas un détail, et fit savourer à son ami toutes les amertumes que les hommes tranquilles ont coutume de répandre si libéralement, avec une vertueuse et maligne jouissance dans le cœur des amants. Mais, comme on l'imagine, il produisit peu d'impression. Wilhelm répliqua avec une profonde émotion, mais avec une grande assurance. « Tu ne connais pas cette fille. Peut-être l'apparence n'est pas à son avantage, mais je suis aussi sûr de sa fidélité et de sa vertu que de mon amour. » Werner persista dans son accusation et offrit des preuves et des témoins. Wilhelm les rejeta et s'éloigna de son ami, saisi de trouble et d'angoisse, comme le malheureux à qui un dentiste maladroit a tourmenté une dent solide et malade qu'il a vainement secouée. Wilhelm sentait un extrême déplaisir de voir troublé et presque défiguré dans son âme la belle image de Marianne, d'abord par les rêveries qu'il avait obsédées dans son voyage, puis par la dureté de Werner. Il eut recours au plus sûr moyen de rendre à cette image tout son éclat et toute sa beauté, en courant le soir chez Marianne par les chemins accoutumés. Elle l'accueillit avec une vive joie. En arrivant, il avait passé à cheval sous ses fenêtres. Elle l'avait attendu dès cette nuit, et l'on peut juger que tous les doutes furent bientôt bannis de son cœur. La tendresse de Marianne lui rendit même toute la confiance de son amant, et il lui rapporta combien le public, combien son ami, s'était rendu coupable envers elle. La conversation, fort animée, roula sur les premiers temps de leur liaison, souvenir qui est toujours pour deux amants un des plus doux sujets d'entretien. Les premiers pas que l'on fait dans le labyrinthe de l'amour sont si délicieux, les premières perspectives si ravissantes, qu'on se les rappelle avec enchantement. On se dispute l'un à l'autre l'avantage d'avoir aimé plus vite, avec plus de désintéressement. Et dans ce débat, chacun aime mieux la défaite que la victoire. Wilhelm répétait à Marianne ce qu'elle avait déjà 100 fois entendu, qu'elle avait bientôt détourné son attention du spectacle pour l'attirer sur elle seule, que sa figure, son jeu, sa voix l'avaient captivée, qu'il n'avait plus suivi que les pièces où elle jouait, qu'enfin il s'était glissé sur le théâtre et s'était tenu souvent près d'elle sans en être observé. Puis il parlait avec transport de l'heureux soir où il avait trouvé l'occasion de lui rendre un léger service et d'engager la conversation avec elle. Marianne, de son côté, ne voulait pas convenir qu'elle eût été si longtemps sans le remarquer. Elle soutenait qu'elle l'avait déjà vu à la promenade et lui désignait pour preuve l'habit qu'il portait ce jour-là. Elle soutenait que dès lors elle l'avait préféré à tous les autres et qu'elle avait désiré le connaître. Que Wilhelm croyait tout cela volontiers. Comme il aimait à se persuader qu'au temps où il s'approchait de Marianne, un attrait irrésistible l'avait attiré vers lui. Qu'elle s'était placée à dessein auprès de lui dans les coulisses pour le voir de plus près et faire connaissance avec lui. Qu'enfin, ne pouvant vaincre sa réserve et son embarras, elle lui avait elle-même fourni une occasion et l'avait presque obligée de lui apporter un verre de limonade. Pendant ce gracieux débat, où ils passèrent en revue toutes les circonstances de leur courte histoire d'amour, les heures s'écoulèrent bien vite. Et Wilhelm, complètement rassuré, quitta sa maîtresse avec la ferme résolution d'exécuter sans retard son projet.